Parle de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous parlons des femmes françaises d'origine maghrébine aujourd'hui. Difficile de les rassembler dans une catégorie homogène, car il s'agit justement d'éviter les étiquettes dégradantes ou réductrices. Tous les jours, on leur demande d'être françaises, d'être musulmanes, d'être voilées ou libérées, pudiques, laïques ou encore vierges. Bref, de se conformer à tous les stéréotypes parfois contradictoires qu'on leur associe. Alors que dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est sur elles que reposent les débats les plus politiques. Débats qui sont d'ailleurs souvent confisqués par des hommes. Beurette, un fantasme français, c'est le titre du livre que publient nos deux invités aux éditions du Seuil, Sarah Difala, journaliste au sein de l'hebdomadaire L'Obs, et Salima Tenfish, chercheure et enseignante en cinéma à l'Université Paris Diderot. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors pour ce livre, pour cette enquête, vous avez rencontré une vingtaine de femmes qui ont entre 18 et 46 ans, des femmes qui ne veulent plus qu'on les appelle beurette. On reviendra sur ce mot qu'elles jugent, et vous aussi je crois, dévalorisées. À choisir, celle que vous avez interrogée préfère rebeu avec un E, c'est ça? Ouais. Pourquoi ce mot?
C'est une discussion, enfin c'est le fruit en tout cas d'une longue discussion avec, avec Salima. Ça devait être en fait, dans l'enquête, on se demandait comment on devait se définir, si on devait se définir. Si on devait, puisque comme vous venez de le dire, on refuse le mot beurette et on se demandait par quoi le remplacer. Et rebeu en fait est le mot qui nous est venu le premier en tête, puisque c'est le mot qui revient dans la bouche de toutes les filles qu'on a interrogées. Quand on leur demandait comment elles se définissaient, la plupart, c'est souvent françaises d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, mais c'était un peu long. Alors souvent elles nous disaient rebeu, bah, je suis une rebeu. Et ça nous paraissait intéressant parce que bah justement, c'était pas, ça ne revêtait pas le caractère sexiste et raciste de beurette. On va en reparler. Et puis, c'était en plus non-genré.
Donc, les rebeux, alors.
Et ce qui nous plaît aussi avec le terme de rebeu, parce que c'est aussi un petit pied de nez à la langue, c'est que dans la formulation, rebeu, c'est aussi à l'image de ce que sont les femmes françaises d'origine maghrébine, puisque la manière de prononcer le re palatal, c'est purement français. C'est un re qu'on trouve nulle part ailleurs. Hein, pas en Espagne, pas en Italie, nulle part. Et le E, c'est aussi un son purement français. Donc on trouvait ça assez amusant. Alors que rebeu a pour étymologie arobi, qui est un mot d'arabe, qui veut dire arabe en arabe.
Les rebeux, donc alors comment dépasser le fantasme de la bimbo orientale, de la femme voilée soumise ou de la racaille de cité? Eh bien en donnant la parole à plusieurs de ces femmes qui pour la plupart veulent revendiquer leurs différences, leur double culture et surtout ne pas renier leur identité.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Alors toutes les deux, vous êtes donc l'une journaliste, l'autre chercheuse, et vous êtes amies, vous vous connaissez depuis l'enfance, et un jour vous êtes rendu compte en fait que vous n'aviez jamais parlé de la question de vos origines algériennes.
Oui c'est ça, en fait à 35 ans et des poussières, on se retrouve un soir à discuter du fait que chacune, depuis quelques années seulement, on a pris conscience dans notre espace professionnel, espace intime, qu'on avait pendant très longtemps, et depuis qu'on était toute petite, mis de côté, pour le dire pudiquement, notre identité maghrébine, notre culture maghrébine. Et il a fallu 35 ans pour que toutes les deux, alors qu'on se connaît depuis toujours, on évoque ce sujet et on parle de la culture de nos parents, de la honte qu'on pouvait avoir de leur accent à certains moments, du fait que on pouvait être amené à se lisser les cheveux pour masquer cette identité maghrébine. Donc on a déballé un peu toute cette identité déniée jusque-là.
Vous avez pris conscience en fait d'une forme de honte de soi que vous aviez jusque-là.
C'est ça, je rejoins ce que dit Salima et puis et me rendre compte que jusqu'ici en fait je n'avais pas vu, je m'étais toujours dit bon finalement le fait de passer inaperçu, de m'invisibiliser, ça m'a avantagé en fait dans la vie. Et au contraire en fait à ce moment-là je me suis rendu compte que le fait de dire ça, c'était une honte. J'avais honte d'avoir dit ça, d'avoir eu honte de mes origines, en fait.
Et alors, pour mieux comprendre toutes ces questions, tout cela, vous avez eu envie de questionner d'autres femmes françaises d'origine maghrébine, comme vous, voir comment elles se sentaient perçues en tant que femmes arabes, entre guillemets. Comment vous avez procédé ?
Donc, effectivement, l'idée, c'était d'aller voir comment les femmes comme nous, donc françaises d'origine maghrébine, vivaient ce stigmate, puisque c'en est un, de l'arabité, si on veut l'appeler comme ça. Et donc, on s'est, au début, demandé comment on pourrait trouver des personnes qui accepteraient de parler du fait d'avoir honte d'une identité. Et c'est comme ça qu'on a lancé un appel sur les réseaux sociaux. D'abord, avec l'idée de parler, d'être une femme arabe en France. Et beaucoup d'entre celles qui m'ont répondu ont mis en avant le fait qu'elles en avaient marre de l'image, des stéréotypes, des clichés qui circulaient sur les Arabes en général et en particulier sur les femmes arabes en France.
Elles avaient envie de s'exprimer.
Oui, j'ajouterais en effet qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la prise de parole, l'envie de parler et qu'on arrête surtout de parler à leur place, de mieux les connaître et de raconter à la fois ce qu'elles vivent en tant que femmes arabes du point de vue de la société d'accueil, la France, mais aussi du point de vue de leur propre famille, de leur intimité, de leur, vis-à-vis de leurs parents, de leurs frères et sœurs. Et ça, c'était aussi très important pour elles.
Alors, vous avez surtout rencontré des femmes, vous le dites, hein, plutôt comme vous, qui vivent dans des grandes villes, qui ont fait des études, qui font partie du même milieu social, une classe moyenne. C'est surtout ces femmes-là que vous avez pu rencontrer.
Là-dessus, nous, au début, on voulait interroger tout type de profil, des femmes qui venaient plutôt de banlieue, des femmes qui pouvaient être voilées, ou comme des femmes de la bourgeoisie, de la ruralité ou des grandes villes. Mais ce qu'on a pu observer, enfin, ce qu'on a constaté au bout de 2 ans, puisque entre le début de l'appel et le moment où on a recueilli les témoignages, 2 ans se sont déroulés, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient envie de parler de ces questions, dans cette forme-là en tout cas, c'était des femmes qui finalement nous ressemblaient, c'est-à-dire qui se trouvaient dans une classe moyenne plus ou moins fortunée, plus ou moins éduquée. Et l'hypothèse qu'on formule, c'est que si c'est ce profil-là qui a ressenti le besoin de parler, c'est peut-être que dans les autres catégories sociales et dans les autres situations, la prise de parole peut se faire soit dans des milieux militants, donc de revendication de l'appartenance, par exemple, à une condition sociale de banlieue, ou alors peut se faire par des voies traditionnelles quand on est dans des positions de pouvoir ou quand on est bien installé dans la société. Ou alors, l'autre parole qu'on entendait, c'est la parole des musulmans qui affichaient d'abord comme premier élément de leur identité, leur religion. Et ce n'était pas notre cas. Et c'est peut-être la place qu'on a ouverte, ou en tout cas l'agora qu'on a ouverte avec notre livre, qui était donnée cette fois-ci à des gens qui avaient envie de parler de la double culture et de la difficulté à bricoler avec ces deux identités.
Alors, pour parler de cette double culture, vous êtes notamment penché sur la question du rapport au corps, à l'apparence, hein, qui est très, très important. Le corps des femmes d'origine maghrébine est l'enjeu souvent de débats qui les dépassent. Et vous avez rencontré des femmes qui ont longtemps été complexées par leur corps. Adila, par exemple, qui a la quarantaine, elle vous raconte « Je vivais mon arabité comme une laideur. J'avais de nombreux complexes liés en partie à mes origines algériennes. J'étais embarrassée de ce corps d'arabe. » Alors, ce n'est plus le cas, elle le dit aujourd'hui pour elle. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la parole des femmes que vous avez rencontrées sur ce sujet du corps ?
Le témoignage d'Adila, en effet, c'est un super bon exemple parce que nous, on a été très étonnés en la voyant parce que c'est une femme très belle, bien dans son corps, etc. Et quand elle nous lance cette phrase, en effet, « Je vivais mon arabité comme une laideur », on a eu du mal à comprendre. Mais finalement, c'est que ce corps-là n'a jamais été visible, n'était jamais représenté. Les cheveux bouclés, la peau mate, les rondeurs, même si on n'est pas toutes comme ça, hein, je vous rassure. Ça n'existait pas et ça fait référence à un corps qui fait partie d'un groupe social qui est plutôt disqualifié, qui subit les discriminations et le racisme. Donc on n'a pas forcément envie d'appartenir à ce groupe. Or, le physique est assez marqueur, évidemment. Ça, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas le mettre sous le tapis, comme le dit d'ailleurs Adila. Ça se voit. Et donc, elle est embarrassée, comme parfois, moi aussi, j'ai pu être embarrassée. Je le raconte aussi, voilà, je me livre aussi un petit peu. Voilà, essayer de faire en sorte de cacher ces particularités du physique.
Vous dites que vous avez longtemps voulu ressembler à une Parisienne, ouais. Hein, que vous avez voulu jouer sur une ambiguïté que pouvait provoquer votre physique.
Absolument, parce que bon, alors, certains pouvaient voir en moi l'Algérienne que je suis, d'autres un peu moins. Donc, je pouvais passer pour une Mexicaine, une Italienne. Et puis comme je racontais pas forcément, mon environnement privé, parce qu'il était aussi lié aussi des complexes de classe sociale, etc. Comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était plus facile. Donc oui, j'ai joué de ça.
Vous avez joué de ça. Alors, il y a aussi la question du défrisage. On l'a brièvement abordé tout à l'heure. Salima Tenfish, vous racontez que votre mère, qui ne vous a jamais défrisé les cheveux, mais qui trouve peut-être que vos cheveux bouclés ne font pas soigner. Alors, comment expliquer ça, ce rapport aux cheveux?
La chose, c'est que dans ma famille, c'est 50-50. C'est-à-dire que ma mère a les cheveux raides naturellement, très noirs et raides. Ma sœur aînée a les cheveux raides, châtain clair. Mon autre sœur, raide, noire, très très foncé. Et ensuite, il y a ma petite sœur et moi-même qui avons les cheveux, comme vous le voyez, très frisés et bruns. Et pour ma mère, elle ne comprenait pas ce que c'était que ses cheveux qu'elle n'arrivait pas à dompter et qui, surtout, dans sa culture, n'avaient jamais été valorisés. Puisque avoir les cheveux frisés, en Algérie, c'était se rapprocher des Africains noirs qui subissent du racisme, qui subissent une disqualification de leur apparence. Tandis qu'avoir les cheveux raides et avoir la peau claire comme une partie donc, de mes frères et sœurs, ça, c'est valorisé. Donc nous, il fallait aussi qu'on ressemble le plus possible à ma mère et à mes sœurs. Et donc, en ayant les cheveux en tout cas, pas forcément raidis, mais du moins soignés.
Et un mouvement sur ce sujet-là s'est lancé pour revaloriser le cheveu naturel dans la foulée du mouvement NAPI pour les femmes noires, Natural Hair Movement. On parle du mouvement Le Cheveu Crépus et Beau qui est né en 2018. Vous en parlez avec la création d'une page Facebook vraiment sur le sujet.
Oui, parce que c'est un collectif qui s'est monté et je trouvais leur démarche intéressante parce qu'en fait, ils s'attaquent non seulement aux préjugés qu'on a, qui sont racistes vis-à-vis du physique, vis-à-vis de la société d'accueil, on va dire, enfin de la France en particulier, pour parler de ce qui nous concerne, mais aussi du racisme intégré au sein même des communautés et des pays d'origine, puisqu'on les gens font aussi référence à ça. La démarche est intéressante parce qu'elle cherche, en fait, elles expliquent bien que c'est qu'on a une sorte de déficit d'histoire, on ne se rend pas compte qu'en fait... les personnes issues du continent africain, il y a un peu de tout physiquement. Donc c'est aussi une réappropriation pour plus de connaissances aussi de nos identités.
Mieux se connaître soi-même.
Mieux se connaître, ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais.
Alors on parle des Françaises d'origine maghrébine qu'on appelle parfois les beurettes. Alors on va parler de ce fantasme de la beurette dont vous parlez dans votre livre, avec cette chanson que vous citez comme preuve, s'il en fallait, des clichés qui existent. Attention, les paroles peuvent être dérangeantes. Beurette s'identifie à Kim Kardashian. Elle veut son Kanye West car elle a pas d'argent. En boîte, elle s'assoit qu'à la table des grossistes. Tu lui offres 3-4 verres en échange d'un 06. Sur Instagram, ses grosses fesses sans photo de profil. Un lissage brésilien ou brushing avec des fossiles. Elle aimerait être une star et percer dans la télé-réalité. Le monde à l'occidental a déraciné à la vie. Voilà, donc les beurettes M du rappeur marseillais El Matador. Donc il lui plaide le second degré, à voir. On l'entend en tout cas dans certaines de ses paroles. Il y a tout un imaginaire autour de cette figure de la beurette. D'où il vient ce mot ?
Alors c'est un mot qui apparaît dans les années 80. Au départ, c'est simplement le féminin de beurre. Donc qui veut dire enfants d'immigrés maghrébins en France, qui vivent en France, qui sont nés là ou qui ont grandi là. Et au début, ça n'a pas vraiment de connotation négative. Au contraire, c'est même plutôt bien vu. La beurette, c'est la fille immigrée, mais qui s'intègre, qui joue le jeu de la République. C'est-à-dire, à ce moment-là, qui s'habille à la française, comme on disait, qui travaille bien à l'école, qui parle parfaitement français. C'est ça, la beurette dans les années 80. Et après, ça évolue, ça disparaît, ça tombe en désuétude dans les années 90. Et au tournant des années 2000, on le voit réapparaître, ce terme de beurette, mais alors plus du tout dans la bouche des défenseurs de « touche pas à mon pote » ou de l'antiracisme, mais sur les sites pornographiques, comme une catégorie de recherche, très haut placée d'ailleurs sur les sites de recherche porno français, et comme une insulte dans la bouche des enfants dans les cours de récréation à l'école. Pour désigner des filles un peu trop jugées, en tout cas un peu trop vulgaires, jugées trop maquillées, qui se préoccupent trop de leur corps et de leur apparence, et jusqu'à même aller dans l'expression « beurette à chicha », être un synonyme de prostituée ou du moins de filles vénale qui s'intéresse aux hommes pour être entretenue.
Et vous racontez hein, dans le livre l'histoire de Safia qui à 20 ans entend un jour son petit ami l'appeler ma beurette. À ce moment-là, elle ne connaît pas le mot, donc elle va chercher beurette sur internet, sur Google, et c'est là qu'elle découvre tous les fantasmes en fait associés à ça, et effectivement que c'est dans le top 10 des recherches effectuées en France sur les sites de films porno.
Oui, bah, Safia a fait la même découverte que nous, en fait. C'est vrai que nous, le constat de départ, c'était qu'on avait nié notre identité, on était un peu dans ce déni de soi, et au cours de l'enquête, donc on cherche à savoir qui sont les femmes d'origine maghrébine, et on parle de la beurette, puisque c'était vraiment, Bouchra Azouz en parlera tout à l'heure, mais c'était ça, la représentation première qu'on avait de la femme d'origine maghrébine, et en tapant ce mot, on est tombé sur ces pages, mais ces centaines, des milliers de pages, il n'y a que ça. J'espère d'ailleurs que notre livre, peut-être, plus on en parlera, peut-être qu'il écrasera toutes ces recherches, alors, il faut espérer. Et les sites pornographiques, eux-mêmes, on fait des statistiques, des études, alors elles ne sont pas scientifiques évidemment, je ne peux pas trop vous dire sur quoi ils se basaient, ils s'enorgueillaient d'avoir cette recherche comme numéro une en France, et ça nous a vraiment marqué de voir, on ne voyait pas trop où était la fierté en fait, de fêter la beurette en tant que numéro un sur les sites porno. Ouais.
Alors beurette, ce mot, on le disait, a une histoire, on va le comprendre, il date donc des années 80. Je vous propose d'écouter l'extrait du documentaire « On nous appelait beurette ».
Cette petite fille, c'est moi, Bouchra, filmée en 1978. J'ai 10 ans. Mes parents viennent du Maroc, mais je suis née en banlieue parisienne. Je suis une beurette. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les filles arabes dans les années 80.
Bonjour Bouchra Azouz.
Bonjour.
Vous êtes autrice, documentariste. Vous avez réalisé notamment ce documentaire, hein, où on nous appelait beurette, portrait d'une première génération de femmes d'origine maghrébine née en France après la guerre d'Algérie. On a dans ce documentaire 4 témoignages, dont le vôtre. Que vous inspire à vous le mot beurette ?
Plein de choses, tout ce que nos deux autrices abordent dans leur livre. Mais j'appartiens à cette génération, comme vous l'avez souligné avec cet extrait de mon opus 2, On nous appelait beurette. Il est aussi un référentiel un peu socio-historique, c'est-à-dire effectivement de cette génération qui va naître en même temps que naissent les quartiers en banlieue, dans ces cités, et issus de l'immigration maghrébine. Voilà, et en fait, à cette époque-là, on n'existe pas tellement. Hein. On est surtout les sœurs de nos frères qui sont les beurs. Et en réalité, dans le paysage, j'allais dire, politique et sociologique, on n'est jamais que le féminin du masculin, c'est-à-dire on n'a pas d'histoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette série de documentaires pour rétablir un peu notre histoire au féminin pluriel. Parce que nous existons aussi, on a mené des luttes, même si on ne les a pas forcément retenues dans les livres d'histoire, mais on a mené des luttes silencieuses. Donc pour moi, la beurette, d'ailleurs c'est volontairement que dans la voix off que vous avez passée, je dis « je suis une beurette ». En tout cas, c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque. Mmh. C'était aussi un peu une provocation, parce qu'évidemment, dans toute ma construction identitaire, en tous les cas, pour beaucoup de filles de ma génération, on était coincés, c'est-à-dire est-ce que on était cette beurette ? Qu'est-ce que ça voulait dire beurette ? Et en fait, on était qui, tout simplement ? C'était ça notre interrogation et toute la base de notre construction. D'autant qu'il faut quand même se rappeler qu'à cette époque-là, encore une fois, le récit, il est masculin. C'est-à-dire y compris le récit national. Les femmes, elles sont en lutte pour leurs droits, mais la politique, l'histoire, elle est ancrée au masculin et faire sa place dans ce récit-là, c'est très compliqué. Donc nous, à notre époque, on n'a absolument pas de modèle identifiant. C'est nous le modèle, c'est nous qui allons construire ce qui va devenir le modèle pour les générations qui viennent.
Et donc à ce moment-là, ce mot beurette aussi, vous vous en emparez finalement ?
Ben, en fait, moi, je me souviens qu'à l'époque, il n'avait pas évidemment la connotation qu'il a aujourd'hui et que vous avez largement évoquée. Il n'a pas cette connotation à l'époque. À l'époque, c'est vraiment une connotation davantage identitaire, c'est-à-dire on est les enfants de ceux qu'on appelait les bicots. Il ne faut pas les oublier. Nos parents, c'est les bicots, les bougnoules. Et que l'étranger, il faut le nommer. Donc, pour nous qui étions ces descendants de cette génération d'immigrés qui était un peu la force de travail, il fallait aussi nous nommer. Beurre, c'était déjà un peu plus sympathique que Biko ou Bougnoul, mais dans le fond, ça veut dire arabe aussi, quoi.
Et alors, en quoi la représentation des femmes françaises d'origine maghrébine a évolué depuis ces dernières années? Vous êtes beaucoup engagée. Quelle évolution vous avez pu voir, vous?
D'abord, c'est une évolution à la croisée de plusieurs choses. Encore une fois, nous, à notre époque, c'était très, très compliqué. On était encore avec des parents qui venaient en France en pensant ne pas y rester. Et donc, on était un peu mis sous cloche comme ça, en essayant de préserver une tradition, une culture, y compris l'accession à la nationalité. Si vous exhumez un peu les journaux télévisés des années 80, c'est un vrai sujet, l'accession à la nationalité, qui était vécue encore un peu comme une trahison vis-à-vis de l'histoire de nos parents, qui était très liée à l'histoire coloniale. Et puis, on a fait notre bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'on a mené ces luttes silencieuses pour notre émancipation, pour aussi poser le fait simple que on n'était plus totalement de la culture de nos parents et en même temps on n'était pas totalement de la culture française. On était, c'est ce que je raconte, on nous appelait Beurette, on était une identité hybride, quelque chose qui était à la croisée des deux. Et aujourd'hui, quand je regarde les générations des jeunes filles aujourd'hui, elles ont acquis énormément de liberté par rapport à ce que nous avions, quoi, à la fois choisir sa vie, s'émanciper, avoir le droit de s'habiller, de se maquiller, de tout ce qu'on peut imaginer, des évolutions du statut de la femme, mais qui est aussi un statut, encore une fois, qu'il ne faut pas décorréler de la situation, de l'évolution aussi de la place des femmes dans la société française d'une façon globale. Et je pense que si le terme beurette est devenu aussi ce qu'il est devenu, c'est parce que finalement, les filles issues de l'immigration, elles ont encore une charge très importante en termes de loyauté à leur culture, à leur religion, à leur tradition, et que le fait finalement d'afficher comme ça leur liberté, eh bien, elles le payent au prix de la réputation qui leur est collée. Et qui aussi, il ne faut pas décorréler aussi ce statut de l'identité de la fille arabe des quartiers et de l'évolution aussi des quartiers populaires et des cités en particulier qu'on on peut aussi enfermer sous le terme ghetto. Et le ghetto, c'est aussi une organisation sociale dans laquelle les filles qui vivent dans ces ghettos-là doivent aussi mener des combats pour essayer de sortir des assignations qui leur sont imposées. Et je pense que c'est un tout en réalité qui n'est pas forcément lié simplement à l'immigration, mais aussi à la question des quartiers populaires. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dans mon travail de réalisatrice, je n'ai jamais décorrélé les deux. Et c'est ce qu'on voit au travers de ce triptyque « Nos mères, nos darons », « On nous appelait Beurette », et le dernier volet qui est « Meuf de la cité ». Voilà.
Sarah Difala, Salima Tenfish, que vous évoque le combat de femmes comme Bouchra Azouz?
Moi, en tout cas, je vous remercie. Je suis très contente de vous entendre, Bouchra. Très heureuse que vous soyez là et qu'on soit associé à vous et à tout votre travail. Pour nous, vous êtes une des pionnières qui a ouvert le chemin, justement, de la possibilité de prendre la parole sur ces questions-là dans l'espace public et médiatique. Et c'est pour cette raison-là que moi, je tenais à vous remercier, notamment pour l'opus dont on nous appelait Beurette. Moi qui m'a inspirée très tôt pendant l'écriture du livre aussi sur cette double injonction que subissent les femmes d'origine maghrébine que vous traitez dans votre film sans vous détourner du risque qu'on vous dise mais finalement le combat politique de la reconnaissance de l'existence des Arabes en France prime sur le combat d'émancipation des femmes. Et là-dessus, je vous remercie vraiment d'avoir marché sur vos deux pieds en évoquant à la fois le combat politique, de faire accepter que il y a des Arabes en France, qu'il va falloir accepter qu'il y a des Français qui ont des têtes mates, avec des cheveux bouclés, qui ont aussi une autre langue, mais que dans cette population, il y a aussi des femmes
qui subissent une double domination finalement, puisqu'elles subissent une domination raciale et de classe quand elles sont dans les quartiers populaires, et s'ajoute à cela une domination masculine sur le fait qu'elles ont un statut particulier dans la culture maghrébine de leurs parents. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que nos générations, en tout cas actuelles et les plus jeunes, ont perdu un peu de vue, à mon goût en tout cas, dans le fait qu'il y a encore et toujours à lutter quand on est une femme et quand on est d'origine maghrébine pour avoir la liberté de choisir sa vie. Et c'est pas simplement de s'habiller en pépette, mais c'est de faire des études, de décider pour soi, de choisir d'avoir une religion ou non, de choisir avec qui on va se marier ou pas. Ou
faire ses propres choix.
Et faire ses propres choix. Et là-dessus, vraiment, je vous remercie parce que je trouve qu'on le perd de vue, là, ce combat, dans certaines parties de la population arabe militante.
Effectivement, c'est très important d'exhumer cette histoire, et je suis toujours très heureuse quand je vois qu'il y a la relève aussi, parce que c'est un combat qui est permanent, tout comme la République, et finalement la double injonction à la fois du combat politique et de la question des femmes, il ne faut jamais la décorréler, parce que finalement ce qu'on propose, c'est aussi une nouvelle définition de l'intégration.
Et la relève, elle est là. Merci Bouchra Azouz. Je rappelle donc que vous êtes autrice, documentariste. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. 7 milliards de voisins, nous parlons des femmes françaises d'origine maghrébine, des femmes dont l'intime est sans cesse jeté sur la place publique sans que pour autant on leur donne la parole en général. On se retrouve dans un instant, les voisins.
Tu vois, t'étais la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, de qui jamais j'aurais cru douter. Overdose de conscience, pourtant t'étais devenue ma sœur de cœur. Personne n'aurait dû nous séparer. Destinée ou malchance, tu vois j'ai beau chercher les raisons, mais ce que tu m'as fait j'ai pas cautionné. Maintenant j'ai plus confiance, même si ça fait 2 ans que ça s'est passé, même les détails j'ai pas oublié. Pourquoi ça fait si mal d'avoir été trahie par ma seule amie, la seule à qui j'ai confié ma vie, comme si c'était normal. T'as cru que comme ça j'allais tourner la page, mais c'est pas fini, j'ai toujours la rage. Trompée par mon cœur, trahie par ma sœur, la seule en qui j'avais foi, confiance, c'est celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin est venue ton heure, je vais pas plier ce que t'as fait dans les moindres détails, ça je t'ai promis. Ma sœur, la seule, ma sœur. Maintenant tu pleures parce que t'ouvres les yeux, tu vois plus personne, tu dis que t'es seule, et ça te fait peur. Ça te fait peur quand il y a plus personne pour t'écouter, pour t'épauler. T'as perdu ta petite sœur, celle qui croyait dur en ton amitié, mais à croire que toi tu sais pas ce que c'est. Celle qui passait des heures au fun à t'écouter pleurer pour lui, j'ai pas fini. Je veux que tu comprennes combien j'avais de la peine le soir où je t'ai vu coucher avec lui. Tu pouvais pas trouver quelqu'un pour toi, fallait que tu viennes le chercher dans mon lit. Trompée par mon cœur, trahie par ma sœur, la seule en qui j'avais foi, confiance, c'est celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin est venue ton heure, tu vas payer ce que t'as fait dans les moindres détails, ça je t'ai promis. Ma sœur, la seule, ma sœur.
Ma sœur, c'est signé Amel Bent, Camélia Jordana et Vita. Les trois chanteuses ont allié leurs forces pour un projet musical où elles reprennent les tubes de chacune avec des harmonies. Ça vous plaît comme musique et puis comme idée de solidarité?
Elles font partie un peu de notre génération, donc forcément, ça nous plaît. Je trouve que ce sont des femmes... Camélia Jordana, notamment, qui a pris l'espace public avec une force incroyable. On a d'abord reconnu ses talents de chanteuse avant de reconnaître ses talents d'actrice. Il y a quelque chose qui m'a marqué, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas pour faire de la publicité à mon journal, même si je l'aime beaucoup. C'est qu'on a un jour mis Camélia Jordana en une de l'Obs, en Marianne, dans un numéro spécial sur les personnalités qui comptaient. Et je trouve que voilà, avoir fait ça et que Camélia Jordana soit prêtée au jeu, ça veut dire que les choses quand même changent et c'est plutôt positif, je trouve.
Alors dans votre livre Beurette, un fantasme français, vous évoquez une autre figure, celle de Lisa Boutelja, instagrammeuse suivie par près de 40 000 personnes, qui a repris à son compte l'étiquette de Beurette. Elle en joue en fait sur les réseaux sociaux. C'est assez intéressant quand on va sur sa page Instagram, on la voit poser, jouer en fait avec les codes de la Beurette. Donc elle a parfois un collier un peu bling bling sur lequel il est écrit sexy, un décolleté plongeant, un maquillage très voyant. Et en fait, elle dit, en m'appelant Beurette, je ne laisse personne le faire à ma place.
Oui, on a eu la chance de l'interroger. Et c'est une jeune femme vraiment très brillante et puissante et qui se met en scène dans des clichés orientalistes ou au contraire néo-orientalistes, on pourrait dire, c'est-à-dire de la beurette de cité. Donc elle se prend en photo dans des magasins d'habits uniquement faits de contrefaçons avec une surenchère de gourmettes en or, de chaînes en or, de casquettes, de drapeaux algériens et de façon très, très, très sexualisée. Donc elle met en avant son corps qui est très beau, elle a plein de formes, très sexy. Et de cette manière-là, elle renverse tous les stigmates qui sont accolés aux beurettes. C'est-à-dire que donc c'est une fille qui est métisse, qui est franco-algérienne, et qui s'est toujours interrogée sur le fait que cette identité, cette double culture, au lieu d'être présentée comme une richesse dans la société française, pouvait au contraire être perçue comme étant disqualifiante, en tout cas, des enfants d'immigrés maghrébins. Et elle décide de se ressaisir des stigmates et d'en faire commerce, on pourrait dire, en tout cas, d'en faire une forme d'art, puisque c'est de la photographie et de la mise en scène.
Et elle vous dit aussi, la beurette est en bas de l'échelle sociale, elle est en dessous de l'homme, ouais, car elle est femme, elle est en dessous de la femme blanche, car elle est une femme racisée, ouais, et en dessous des élites, car elle vient de la cité.
Oui, c'est ça, c'est pas une petite jeune fille sur Instagram qui fait des photos comme ça d'elle au hasard, pas
c'est
du
politique.
Tout. C'est politique, elle parle de beurettocratie, alors avec cette notion de prise de pouvoir des femmes, donc assimilées à des beurettes, et aussi avec toute une réflexion en tant que styliste et faiseuse de mode et de tendance sur ce que signifie le style parisien et les normes en fait vestimentaires ou de style qui sont imposées aux femmes d'origine maghrébine et à l'ensemble d'ailleurs des femmes de suivre un certain modèle d'effacement justement des formes, d'effacement de la couleur. Et donc elle a toute une réflexion à la fois sur des rapports de pouvoir, donc de classe, de race et de sexe, mais aussi de réflexion sur la mode et le style.
Alors ce qui revient beaucoup dans la parole des femmes que vous avez rencontrées et la vôtre d'ailleurs, quand vous parlez de religion, de langue ou de culture, ce sont les parents. Voilà, on parle souvent des parents finalement. Et un exemple peut-être parlant, c'est Basma qui vous dit « Je ne pourrai jamais avouer à mes parents que je mange du porc ». Voilà, il y a cette question un petit peu des choses qu'on ne dit pas aux parents.
Oui, bah oui, mais alors le porc, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est un peu c'est la ligne rose qu'il ne faut pas franchir. C'est chargé symboliquement assez fort. C'est des choses que je pense les gens ne savent pas, en fait. Dont on parle pas beaucoup. Et la force de ne pas manger de porc, en plus, dépasse complètement le caractère religieux ou de la chose. C'est censé être un interdit religieux. Bon, ça reste encore à démontrer. Mais surtout, c'est quelque chose que certaines femmes gardent pour essayer de garder un lien avec cette culture d'origine qui a été complètement effacée, mise sous le tapis, voilà tout ce qu'on disait. Donc parfois, elles le gardent comme ça, alors même qu'elles ne sont pas du tout musulmanes. Donc on va retrouver des femmes qui n'ont même pas grandi du tout dans une éducation religieuse, mais qui ne vont pas manger de porc.
Et d'ailleurs, très peu des femmes que vous avez interrogées disent manger du porc.
Voilà, c'est ça. Et qui vont même s'interrogent sur l'idée d'en faire manger à leurs enfants ou pas. Donc elles sont un petit peu tiraillées autour de ça.
Voilà. Il y a aussi chez certaines l'idée, vous l'écrivez, que si on mange du porc, on peut être perçue comme une femme vendue, un petit peu exclue.
Oui, en fait, parce que c'est une pratique alimentaire, c'est-à-dire que c'est une pratique quotidienne. On doit toujours manger plusieurs fois par jour. Donc ça veut dire que plusieurs fois par jour, on est exposé à la possibilité de faire la démonstration de notre appartenance à la communauté maghrébine ou du moins musulmane, ou de notre rejet de cette communauté. C'est pour ça que se cristallise sur ces interdits alimentaires, notamment que sont le porc, l'alcool et la cigarette, l'enjeu de faire alliance ou de trahir son groupe. Et ce qui est très fort, comme le disait Sarah juste à l'instant, c'est qu'un simple aliment, un morceau de viande, peut à ce point créer des situations de panique chez certaines des femmes qu'on a interrogées, à l'idée que les parents, ou d'autres d'ailleurs membres de la communauté maghrébine, puissent apprendre, être au courant de leur consommation de porc.
Est-ce que vous diriez que certaines des femmes que vous avez rencontrées sont tiraillées entre d'un côté une société française qui leur fait presque sentir qu'elles sont trop musulmanes et une frange infime qui pourrait leur reprocher de ne pas l'être assez ?
Bah oui, c'est vraiment l'enjeu de toute l'enquête, bien au-delà simplement donc, de cette histoire de beurette qui est le symptôme, c'est bien de montrer à quel point être une femme d'origine maghrébine en France avec le poids de l'histoire coloniale est compliqué. C'est-à-dire que si vous vous intégrez, c'est-à-dire si vous jouez le jeu de la République en gommant complètement les éléments de votre culture d'origine, c'est pour ça que vous dites les parents sont très présents. Ben oui, parce que les parents, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que sinon, ben, on a été élevé ici, on a été à l'école ici, on est né même ici, on est de culture française, manifestement, mais on a en plus une autre culture qui nous différencie. Et effectivement, le fait de devoir choisir entre s'intégrer pleinement, ce qui signifierait effacer complètement ses origines et sa culture, ou ne pas nier ses origines et dans ce cas-là, risquer de ne pas être considéré comme pleinement intégré, pour nous, pose problème. C'est-à-dire que ce problème, qu'est-ce que c'est ? C'est le racisme que subissent les Arabes et les enfants d'immigrés maghrébins en France.
Alors, en faisant cette enquête, vous êtes aussi heurté vous-même à vos propres préjugés. Mmh. Hein. Vous avez rencontré, vous le racontez, une journaliste, Dalia, 25 ans, habillée à la dernière mode. Et vous avez été étonnée quand elle vous a dit qu'elle était pratiquante, qu'elle faisait la prière.
Oui, c'est vrai. Elle nous a fait part de sa spiritualité, de sa religion. Et en fait, malgré nous, on s'est rendu compte de nos propres préjugés. En fait, l'islam est tellement mal expliqué, mal illustré. Et puis, évidemment, bah, depuis l'explosion du terrorisme, l'islam a vraiment très, très mauvaise presse, que nous-mêmes, on en avait une vision assez dégradée. Nos parents sont musulmans, mais l'islam qu'on nous montrait était vraiment quelque chose dont on ne voulait pas se reconnaître. Tout ça pour revenir à Dalia. Dalia, elle nous a montré un islam plutôt beau, en fait, et où pour elle, prier, ça s'apparentait plutôt à du yoga, à une forme de spiritualité, de bien-être. Et voilà, on a...
Et ça vous a étonné ?
On est tombé de notre chaise, ouais. Ouais.
Ah oui, parce que pour nous, la prière, c'était un truc de vieux, quoi. Ouais. La prière, pour nous, c'était nos parents qui, après 50 ans, 60 ans, 70 ans, se mettaient parce qu'ils avaient acquis une forme de sagesse. Mais jamais on aurait pu imaginer qu'une jeune fille branchée, hyperactive, puisse faire la prière à moins de 35 ans.
Alors, on va parler un petit peu du voile, hein, dont vous parlez dans le livre, dont on parle beaucoup dans les médias. Les femmes que vous avez rencontrées en ont marre, d'ailleurs, qu'on leur en parle. Mmh. Et elles en ont marre d'être sommées de prendre position pour ou contre. Ça, c'est quelque chose que vous avez retrouvé.
Oui, c'est vrai. Ça a tellement pris de place. Ça a tellement... on est, comme vous le dites, c'est... on doit être pour ou contre. Or, bon, on explique un petit peu, nous, ce qu'a été le voile pour nous. Et c'est vrai que la... C'est très compliqué puisque on peut être très nuancé en fait sur cette question. On peut estimer à la fois que le voile est un symbole de domination masculine, mais en même temps accepter l'idée qu'il y ait des femmes voilées en France et accepter que des mamans voilées puissent accompagner leurs enfants en sortie scolaire. En tout cas, c'est un avis parmi d'autres. Et c'est cette complexité qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas vraiment à faire sortir dans le débat public et qui est un peu gênant.
Et une des femmes que vous avez rencontrées, Maïssa, vous dit « Il faut être courageuse pour porter le voile aujourd'hui en France, il faut avoir les épaules solides. »
Ouais, ce qu'on a appris, c'est par une enquête de 2018, si ma mémoire est bonne, c'est que jusque récemment, c'était plutôt les hommes d'origine maghrébine qui subissaient le plus de discrimination raciale avérée, donc au logement, à l'emploi, à l'accès à un certain nombre de services ou d'activités. Et depuis 2018, il y a un renversement du rapport homme-femme vis-à-vis du racisme. C'est plutôt les femmes qui subissent du racisme parce que ce sont les femmes voilées, donc pour lesquelles l'appartenance à la religion musulmane est manifeste, qui subissent le plus de racisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération, un renforcement du racisme anti-musulman qui frappe surtout les femmes voilées.
Alors, pour parler des représentations, hein, les femmes d'origine maghrébine ont longtemps été rares dans les médias, au cinéma aussi. On a parlé tout à l'heure de Camélia Jordana. Et bien justement, on va la retrouver. Je vous propose d'écouter cet extrait de la bande-annonce du film Le Brio, réalisé par Yvon Attal.
Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard.
Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là ?
Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique.
Typique ? Typique de quoi, exactement ?
C'est du racisme, vous n'avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre.
Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline.
C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne?
Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence.
Eh mais moi je veux rien du tout de vous.
Mon salut est entre les mains de Neila Salah.
Va mourir.
Quel conne.
Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste.
Fatima!
Comment vous m'avez appelé là?
Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe?
Vous savez quoi? Je vous aime pas.
Non mais vous croyez quoi? On n'est pas jugé sur son apparence.
Alors, ce film, Le Brio, c'est l'histoire d'un professeur de fac, de la fac de droit d'Assas, qui est joué par Daniel Auteuil. Et il prépare une élève, jouée par Camilla Jordana, à un concours d'éloquence. D'un côté, on a un prof réac, connu pour ses dérapages. Et de l'autre, donc, cette étudiante qui vient de Créteil, qui arrive en survêtement, qui veut devenir avocate. Est-ce que vous avez vu ce film-là?
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah, on peut d'un côté se réjouir du fait qu'il y a un rôle de personnage maghrébin et de banlieue dans un film français, donc c'est un plus, mais on peut immédiatement dire que c'est encore, malgré tout, un rôle stéréotypé, même si c'est fait avec bienveillance, puisque finalement c'est un parcours de réussite du personnage interprété par Camilla Jordana. Le personnage reste quand même enfermé dans des stéréotypes. C'est-à-dire qu'une fille rebeu en fac de droit, c'est forcément une fille de banlieue. Une fille de banlieue, elle parle forcément mal et elle a un accent qu'il faudrait effacer. Alors ça nous emmène sur une réflexion bien plus large sur les accents que sur les accents marseillais des journalistes à l'antenne. Bon, qu'il faudrait absolument gommer toutes les autres formes de parler. En fait, on imagine que il faudrait absolument, dans le film, il faudrait absolument effacer tous les éléments d'appartenance à la culture banlieue, à la subculture, et que c'est en faisant ce travail, donc le professeur accompagne l'élève, l'étudiante vers ça, on invisibilisera justement son appartement social, et c'est ainsi qu'elle pourra être bien intégrée. Donc ça veut dire que le postulat qui se trouve derrière cette démarche bienveillante de bon professeur qui apprend l'intégration et l'intériorisation de la culture officielle à son étudiante, et ben finalement c'est une injonction qui s'impose à l'ensemble des jeunes issus ici des quartiers populaires.
Alors on a quand même néanmoins, et vous le soulevez dans le livre, hein, d'autres représentations, d'autres films, et ça c'est nouveau, vous le dites, il y a une vraie dynamique qui se crée en termes de représentation de femmes françaises d'origine maghrébine.
Oui absolument, et c'est l'actrice Sabrina Ouazzani qu'on a interrogée, qui nous en a beaucoup parlé. Elle a fait le constat avec nous que pendant très longtemps, elle est actrice depuis l'âge de 13 ans à peu près, et elle en a plus d'une trentaine aujourd'hui, et elle nous expliquait qu'elle avait refusé une cinquantaine de rôles de scénarios, parce que le rôle qu'on lui proposait étaient des rôles stéréotypés. Ces rôles stéréotypés étaient lesquels? Ça a été d'abord une première phase où on lui proposait de jouer donc cette fameuse fille des quartiers qui était soumise à son frère ou à son père qui contrôlait toute sa vie. Ensuite, on lui a proposé des scénarios où elle devait jouer une fille hyper sexualisée, oui. Avec des scènes où on parlait très peu d'amour, où c'était vraiment de l'amour cru, etc. Et plus récemment, dans les années 2000, je dirais 2010, des rôles d'amoureuses, de djihadistes partis pour Daesh,
ah oui,
et pour lesquels, voilà, tous les clichés, et surtout pour lesquels où il n'y avait pas vraiment d'approfondissement du rôle, c'était vraiment la fille naïve qui n'avait pas de, voilà, qui partait, etc. Mais elle nous dit, et nous aussi on le voit dans nos écrans de télévision, que depuis peu quand même, on lui a proposé des rôles où le fait d'être une femme arabe n'est pas le sujet du film. Et elles peuvent même s'appeler Charlotte ou Marie, ces femmes-là. Donc voilà, on sort complètement. Et voilà, y a, évidemment, elle joue dans la série Planqueur où elle joue une Charlotte. Même si elle est d'origine maghrébine, on le voit un petit peu parce qu'il y a son père qui apparaît à un moment donné, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, il y a beaucoup d'autres séries de films. Donc ça avance, c'est cool.
Donc, on a de nouvelles représentations.
Ouais,
j'aimerais, on arrive à la fin de cette émission, vous poser une dernière question, celle de la transmission. Et notamment, la question, vous le dites, hein, assez épineuse des prénoms pour ses enfants. Est-ce qu'il faut donner un prénom à consonance maghrébine à ses enfants? C'est une question que vous avez posée et qui se pose, hein, pour ces femmes que vous avez rencontrées.
Ouais, on pourrait dire que c'est une question de réel politique. C'est-à-dire, est-ce que on prend le risque de mettre nos enfants en difficulté en acceptant et en déplorant, mais en acceptant l'idée qu'il y a du racisme en France et que donc s'appeler Mohamed, bah, c'est plus difficile que de s'appeler Jean ou Pierre?
Et donc, est-ce qu'on s'aligne à un monde qu'on déplore, ou est-ce que on imagine que les choses vont s'arranger et que dans ce cas, on tente le prénom typé, typique, maghrébin. Et la question, elle est là, c'est-à-dire, est-ce que on se met dans une position de lutte finalement contre le racisme et de résistance? Ou est-ce qu'on est cynique et on se dit de toute façon, la société française est raciste, donc mieux vaut l'épargner et l'appeler Mathieu ou Jean-Pierre.
Donc plutôt choisir la lutte.
Ouais, plutôt choisir la lutte.
Allez, merci à vous deux, Salima Tenfish, Sarah Difala, merci d'être venus nous parler de votre livre « Beurette, un fantasme français », des portraits de femmes françaises d'origine maghrébine. Vous leur faites livrer leurs aspirations, leur rapport à leur corps, leur héritage, à la religion. L'idée, c'est de mettre à l'honneur leur double culture, votre double culture. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Duprac à la réalisation, Juliette Brault en coulisses. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, pour votre écoute. C'est la fin de notre émission. On se quitte en musique avec Indy Zara, Imik Simik. C'est maintenant sur RFI. Imik Simik, Afous, Hufous, Wingdwinou, Iranfto. Imik Simik, Afous, Hufous. I'll take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry, more than a motherless child. I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. Imik, simik, afous, hufous, wingdwinou, iranftou. Imik, simik, afous, hufous, lihsfata zaynou, lihsfani walinou, lihtomstafousinou, agharawidik. Imik, simik, afous, hufous. Lundi, 7 milliards de voisins, ce sera Amélie Beaucourt derrière le micro pour parler des disparitions, fugues, enlèvements, déplacements à cause d'un conflit. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent dans le monde. Quel recours pour les familles de disparus? Pourquoi tant d'affaires restent encore non élucidées? Les voisins, on vous attend au 33 7 64 45 51 41. Et moi, je vous dis à bientôt, les voisins.
7 milliards de voisins, c'est fini.